France Culture. Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Mon arrière-grand-père a combattu à Stalingrad. Et donc pour moi, c'est très important de participer à cette cérémonie pour se souvenir et être fier de nos anciens.
Être patriote, ce n'est pas seulement honorer le passé et tout ce qui a eu lieu pendant la guerre, c'est aussi respecter les vivants en leur donnant des conditions de vie meilleures. Ce n'est pas bien quand on prononce de belles phrases mais qu'on ne fait rien.
Je crois effectivement qu'il y a des gens qui considèrent les idéaux du patriotisme tout en ayant le regard tourné vers le nationalisme. Et ça, ce n'est certainement pas correct.
La deuxième vague d'épidémie de Covid-19 frappe durement la Russie. Des statistiques en provenance de Moscou, mais plus proches des normes internationales que les chiffres officiels, placent la Russie au troisième rang mondial en termes de décès. Lors de ses vœux pour la nouvelle année, le président a logiquement appelé à l'unité. Il est très important de croire en soi, de ne pas plier devant les difficultés, de maintenir notre cohésion, a déclaré Vladimir Poutine. C'est la base de nos futurs succès. Mais cette référence à l'unité nationale est devenue une ritournelle. On la retrouve systématiquement dans les discours et conférences de presse présidentielles. À en croire Vladimir Poutine, c'est le patriotisme qui sauvera la Russie. Et si la situation sanitaire l'a privé d'une tribune l'an dernier, lors du 75e anniversaire de la victoire sur le nazisme, il compte bien profiter d'une nouvelle commémoration cette année pour louer l'héroïsme et le sens du sacrifice. Cette occasion, ce sera le 80e anniversaire de l'entrée de l'URSS dans la Deuxième Guerre mondiale. Le souvenir de cette grande guerre patriotique est entretenu par ces cérémonies officielles, mais aussi à l'école et dans les clubs patriotiques où l'on apprend à défendre son pays. Mais alors qu'aujourd'hui, 21 millions d'habitants vivent sous le seuil de pauvreté, la promotion de ces valeurs permet-elle vraiment de souder les Russes et de faire taire les critiques contre le pouvoir ? Le patriotisme russe à l'épreuve du quotidien, c'est un reportage signé Claude Bruyot. Donc en reportage, nous accueillons aujourd'hui Tatiana Kastouyeva-Jean, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, directrice du centre Russie et Nouveaux États indépendants. Également avec nous, Anna Colin-Lebedev, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous à distance, maîtresse de conférence à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste des sociétés post-soviétiques. Nous allons commencer par écouter ensemble le reportage de notre correspondant en Russie, Claude Bruyot. Un reportage qui va nous emmener à Volgograd, à Moscou, mais également au-delà du cercle polaire arctique. Claude Bruyot.
Les chants patriotiques et le crépitement des mitraillettes dans les haut-parleurs dissimulés derrière les statues de pierre des soldats ne s'arrêtent jamais. Comme s'ils voulaient marquer pour toujours l'esprit des visiteurs qui progressent d'un pas lent et mal assuré sur les marches verglacées d'un escalier monumental. Nous sommes à Volgograd, 1 million d'habitants, l'ancienne Stalingrad, à plus de 900 km au sud de Moscou, sur le Kourgan Mamaïev, la colline Mamaïev, l'un des hauts lieux de la bataille la plus meurtrière de la Deuxième Guerre mondiale entre soviétiques et nazis de juillet 1942 à février 1943, une confrontation qui a fait environ 2 millions de morts civils et militaires. Au sommet du promontoire, une sculpture de 85 mètres de hauteur surplombe depuis 1967 toute l'agglomération qui s'étend le long de la Volga. La stèle représente une femme vêtue d'une longue tunique flottante qui brandit une épée géante. De son visage, on ne retient que l'expression d'un cri, figé par le temps, qui semble donner le signal de l'assaut. Les Russes qui viennent souvent sur place en famille savent tous que cette statue symbolise plus que n'importe quelle autre la victoire de l'URSS sur l'Allemagne nazie. Ils savent aussi qu'elle caractérise l'appel au sacrifice, celui des 27 millions de soviétiques morts entre 1941 et 1945, raison pour laquelle il la nomme l'appel de la mère patrie. Après avoir frôlé les grands murs sur lesquels s'inscrivent des milliers de patronymes de soldats soviétiques morts à Stalingrad, après s'être un instant recueilli devant la flamme du souvenir, Dmitri, 20 ans, a continué avec deux amis venus de Moscou jusqu'en haut de la colline Mamaïev. parce qu'il voulait, dit-il, éprouver sur place l'idée qu'il se fait de son attachement à sa patrie.
C'est une question compliquée à laquelle il est difficile de répondre en deux mots. Premièrement, il faut aimer son pays et aimer les gens qui vivent là. Et moi, j'aime vraiment mon pays et ses habitants. L'essentiel aussi, c'est de comprendre nos problèmes, ce qui veut dire bien les analyser. Et ensuite, nous devons être unis pour mieux les résoudre. Parce qu'aujourd'hui, les problèmes deviennent de plus en plus compliqués.
Être à la fois dans le respect du sacrifice des vétérans de la Grande Guerre patriotique, comme tout le monde en Russie appelle la Deuxième Guerre mondiale, le respect de ceux qui ont inversé le cours du conflit, mais être également dans l'exigence vis-à-vis du pouvoir politique actuel afin qu'il améliore le quotidien, c'est aussi la préoccupation de Volodya. À 58 ans, ce natif de Volgograd estime que c'est à cette seule condition que le contrat moral qui lie le peuple à ses dirigeants peut être honoré. Chauffeur de taxi 15 heures par jour, il montre les rues de sa ville aux immeubles et aux maisons défraîchies, tout en évoquant les jeunes qui s'en vont chercher du travail ailleurs. Comment, dans ces conditions, interroge-t-il, se revendiquer patriote, lui qui affiche pourtant à son rétroviseur intérieur les rubans orange et noir de Saint-Georges, symbole de la victoire en 1945.
Être patriote, ce n'est pas seulement honorer le passé et tout ce qui a eu lieu pendant la guerre, c'est aussi respecter les vivants en leur donnant des conditions de vie meilleures. Ce n'est pas bien quand on montre seulement la vitrine, quand on prononce de belles phrases mais qu'on ne fait rien. Dans ces conditions, c'est très difficile d'être patriote.
Volodya nous conduit au poste numéro 1, au bout de l'allée des héros, présenté comme le premier lieu du souvenir des combattants de Stalingrad. Sur une petite place, un obélisque a été érigé, cette fois au centre de la ville, à proximité d'immeubles de 5-6 étages construits par des prisonniers allemands et roumains. Devant la stèle, c'est l'heure de la relève de la garde. Les talons des bottes de Valeria, 15 ans, claquent sur le sol gelé. Cette jeune lycéenne de la région de Volgograd marche le buste droit, les bras tendus puis repliés à chaque balancement sans le moindre écart. En tenue militaire, elle porte en plus dans les cheveux deux rubans blancs satinés comme deux symboles de paix. De son regard clair se dégage une immense fierté d'avoir été choisie ici pour cette cérémonie.
Nous montons la garde pour les soldats qui ont donné leur vie pour que nous ayons la paix jusqu'à aujourd'hui. C'est un grand honneur pour nous. Mon arrière-grand-père a combattu à Stalingrad, et donc pour moi, c'est très important de participer à cette cérémonie. C'est une façon de l'honorer. C'est un choix personnel, ça n'arrive qu'une fois tous les 5 ans, sur 8 jours, pour se souvenir et être fier de nos anciens.
Aux côtés de Valeria et de ses camarades, qui contrôlent tous parfaitement leurs émotions, se tient Alexandra, l'une de leurs professeurs. Elle veille à ce que la cérémonie, suivie par quelques passants, soit exécutée jusqu'au bout à la perfection, car c'est un moment important pour tout le lycée.
Nous sommes une école secondaire dans le district le plus au nord où l'on produisait des tracteurs. C'est la raison pour laquelle nous avons cet honneur de monter la garde au poste numéro 1. En Russie, il y a seulement quelques villes où les gardes mémorielles sont assurées par des élèves. Dans les autres cas, ce sont soit des mouvements de jeunesse, soit des militaires qui le font. Pour ce qui nous concerne, les élèves ont été choisis spécifiquement pour ça. C'est vraiment un honneur d'assurer cette mission ici, près de la flamme éternelle qui est allumée depuis 1965. Il y a eu une seule période d'interruption ici, durant 8 ans, pendant la perestroïka. À la fin des années 90, on a repris cette tradition avec une seule interruption pendant les vacances scolaires.
Alexandra et Valeria laisseront la place la semaine suivante à d'autres jeunes volontaires, d'autres enseignants, pour qu'ils s'approprient à leur tour l'espace de quelques heures un fragment d'émotion patriotique, positive celle-là, qui semble générer chez eux le sentiment d'appartenir pleinement à la nation russe et de perpétuer le souvenir intense du sacrifice des vétérans.
Je m'appelle Robert Landal, Je travaille à l'Institut de l'Académie des sciences. Je me reconnais comme russe. Je n'ai qu'en Russie. Mon langue maternelle est russe et ma mère est russe.
Mais votre père était...
Il était juif.
Robert Landa avait presque 15 ans, lui aussi, le même âge que la jeune Valéria de Volgograd aujourd'hui, quand la Grande Guerre patriotique s'est achevée. Et dans son appartement à l'ouest du Grand Moscou, entouré de dizaines de livres jaunis sur l'histoire des peuples du monde, il raconte aussi ses émotions d'adolescent. Il se souvient de la joie sincère, selon lui, des officiers américains sur la place Rouge, au milieu des soldats soviétiques, pour le premier défilé de la victoire le 9 mai 1945. À 90 ans, le vieil historien refuse toutefois de considérer le patriotisme russe comme une matrice uniforme et figée dans laquelle se retrouveraient sans nuance 145 millions de Russes, tout simplement parce que déjà à l'époque, dès le départ, l'idée de sacrifice patriotique pour sauver la nation en danger n'allait pas de soi partout ni pour tout le monde.
Il y avait plusieurs catégories de soldats, oui, et aussi les... Je peux dire que c'est... Les plus riches n'étaient pas très patriotiques, voilà. Je peux dire qu'il existait des soldats qui ne veulent pas de faire la guerre. Il y a beaucoup de soutien des Allemands à l'Ukraine parce que à l'Ukraine, l'activité des nationalistes était très forte avant la guerre aussi et pendant la guerre. Comme Bandera, oui, comme Shushkevich, il était très influent.
Il y a eu aussi beaucoup de soldats soviétiques, après la guerre, qui ont été envoyés au Goulag, alors qu'ils avaient combattu les Allemands, oui. Mais qu'ils avaient été faits prisonniers par les Allemands.
C'est terrible, oui, mais nous devons penser des politiques de stalinisme, de l'activité de Laurent Beria. Malheureusement, mais c'est réalité de temps de guerre aussi. Non seulement d'héroïsme, patriotisme, etc. C'est terrible injustice, oui.
Aujourd'hui, on n'en parle plus en Russie de ça.
Aujourd'hui, ce problème presque n'existe pas, surtout en Russie. Mais en Ukraine... Et aussi dans les pays baltiques, ces problèmes existent. Dans les mémoires des gens, oui.
Robert Landa voulait rappeler le contexte historique élargi à l'époque de l'Empire soviétique. Mais il reconnaît toutefois qu'aujourd'hui, au moins la majorité des Russes acceptent encore la façon dont le pouvoir actuel, Vladimir Poutine en tête, met en avant l'unité patriotique comme garantie d'avenir.
Comme dans tous les pays, il y a des différentes opinions. Mais chez nous, la majorité se souvient de ces cours d'histoire et c'est pourquoi la politique de Poutine sur le travail de mémoire est positive pour la majorité du peuple.
Самая продолжительная и страшная осада за всю историю человечества.
Nous sommes maintenant dans l'un des nombreux clubs patriotiques de Moscou, au cœur d'un quartier fait de barres d'immeubles impersonnels dans le sud-ouest de la capitale russe. Une vingtaine d'adolescents, garçons et filles, encadrés par deux animatrices, regardent un film historique qui retrace les presque trois années du blocus de Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, entre septembre 1941 et janvier 1944. Régulièrement, les jeunes se retrouvent après les cours pour revisiter une date marquante de l'histoire du pays. Ce jour-là, ils ont rendez-vous avec Alexander Nikolaevich Lobachinsky, 85 ans, l'un des rescapés du blocus de Leningrad, qui a fait environ 1 million de morts pendant les bombardements allemands, mais aussi à cause du froid et de la faim. Avant de démarrer son exposé, Alexander Nikolaevich a fait distribuer à son jeune auditoire les mêmes rations de pain noir de 125 grammes qu'il recevait à 6 ans pour le nourrir une journée entière. Les morceaux de pain passent de main en main sous le regard mi-amusé, mi-incrédule des adolescents, mais très vite le silence se fait lorsque le vieil homme se lève et raconte son expérience vécue du blocus de Leningrad.
Память воинов советской армии, жителей блокадного Ленинграда.
La mémoire des soldats de l'armée rouge, des habitants de Léningrad bloqués dans des conditions vraiment insupportables. Avec l'hiver, la faim, le froid, où on manquait du minimum comme l'eau et l'électricité. Pratiquement 900 jours, plus de 2 années et demie de blocus
continu.
Mais le peuple a survécu à tout ça. Le peuple n'a jamais sorti le drapeau blanc pour se rendre. Il ne l'a jamais sorti.
Après quelques longues secondes de silence, Alexander Nikolaïevitch Lobachinsky, à l'invitation des animatrices, est rejoint par les adolescents qui se lèvent, l'entourent et l'applaudissent. La petite assemblée passe alors dans une autre pièce où les tables sont dressées pour boire le thé, manger quelques gâteaux préparés par les jeunes du club patriotique qui veulent surtout poursuivre les échanges avec leur invité. En chemise et pantalon kaki, Micha, 16 ans, est un membre assidu de son club. Il dit qu'il se destine à la carrière militaire, mais en attendant, il critique le désintérêt grandissant selon lui dans beaucoup de lycées comme le sien, quand il est question d'aborder les grandes dates de l'histoire de son pays.
Je crois que tout doit venir des connaissances à l'école. Parce que à l'école, parfois, on ne donne pas ces connaissances. Et il faut attendre d'être au lycée ou à l'université pour les recevoir. Quand les élèves arrivent à ce stade et qu'ils ne connaissent pas grand-chose sur la Grande Guerre patriotique, c'est sûr que ça ne va pas créer de lien entre eux et notre histoire nationale. Je sais qu'il y a par exemple des enseignants aussi qui ne sont pas motivés. Ils mettent des bonnes notes dans la matière pour se débarrasser. Mais ça ne signifie pas forcément que les élèves ont des vraies notions. Mais d'un autre côté, je crois que ceux qui veulent vraiment étudier l'histoire du pays, ils deviennent des patriotes et ils aiment leur pays.
Cette question de l'enseignement du patriotisme est centrale pour Sergueï Fiodorov, professeur et chercheur à l'Institut européen de Russie. Elle conditionne, selon lui, une transmission doublée d'une appropriation optimale de valeurs qui vont de la reconnaissance du sacrifice pour la défense du territoire national au rayonnement du pays à travers le monde.
J'ai perdu ma famille pendant le blocus de Leningrad. Sur 8 personnes, il y en a seulement 3 rescapés. Moi, c'est ma mère avec ma tante et ma grand-mère qui a été évacuée par le chemin de Aladoga pendant les gels de 25 degrés. Voilà, et je ne peux pas oublier tout ça, comme tout le monde d'ailleurs ici.
Est-ce que la manière d'enseigner cette période de l'histoire, la Deuxième Guerre mondiale, la Grande Guerre patriotique comme on l'appelle, est la même entre les années 60, 70 et ce qui est enseigné aujourd'hui? C'est la même façon d'enseigner?
Non, je pense que ce n'est pas la même façon. Bien sûr, donc, si vous voulez, le vecteur principal, ça reste inchangé. C'est que nous avons apporté à l'hôtel de la victoire plus de 25 millions de personnes, vous savez. C'est la moitié de toutes les pertes de la Deuxième Guerre mondiale. C'est pourquoi je veux dire que la différence entre la présentation de cette histoire autrefois, disons dans les années 70, et maintenant, c'est qu'on a ouvert presque toutes les, disons, les mystères de cette guerre, y compris le pacte Molotov-Ribbentrop, y compris les événements de Katyn, le fusillage des officiers polonais. On a ouvert presque tout.
Voilà. C'est enseigné, ça, aujourd'hui?
C'est enseigné, mais on ne peut pas se consentir avec l'idée véhiculée par l'Occident, par la résolution du Parlement européen, en mettant sur les mêmes positions l'Allemagne nazie et l'Union soviétique.
Concernant les jeunes, vous avez des élèves, qu'est-ce qu'ils vous disent là-dessus?
Non, je pense qu'il y a toujours donc cette ligne de la chaîne de l'histoire qui est transmise entre les générations dans toutes les familles. Mais bien sûr, il y a cette tendance aussi, parce que les jeunes, ils ne veulent pas savoir l'histoire, ils s'intéressent, je ne sais pas, à leurs gadgets électroniques, ils veulent, je ne sais pas, voyager dans le monde entier, et qui disent parfois, voilà, mais quoi bon tout ça, ce sont des atrocités, on oublie tout ça. Oui, mais on ne peut pas oublier. C'est pourquoi, quand on ne veut pas connaître son histoire, on n'a pas l'avenir.
mais à des milliers de kilomètres de Moscou, de ses centres de réflexion et surtout de décision, que vaut réellement cette adhésion actuelle au patriotisme russe? Pour tenter de comprendre, nous prenons la direction de Vorkuta, 60 000 habitants, à près de 2 000 kilomètres au nord-est de la capitale russe, au-delà du cercle polaire arctique, dans la République des Komis, un territoire plus grand que celui de l'Allemagne. Vorkuta est connu en Russie pour avoir fait partie pendant au moins 2 décennies du goulag soviétique. Durant les années 40 et 50, au moins 70 000 prisonniers ont vécu là-bas au rythme inhumain du Vorkutlag, comme on l'appelle encore sur place. Déportés ethniques et politiques, prisonniers de droit commun, soldats ennemis capturés pendant la Deuxième Guerre mondiale, tous travaillaient dans les mines de charbon autour de la ville. Sur les 27 puits exploités encore il y a une trentaine d'années, seuls 4 restent aujourd'hui en activité. Et de nombreux immeubles se sont vidés de leurs habitants, comme celui dans lequel nous accueille encore chaleureusement Lydia, 89 ans. Enfant déporté avec sa famille, Lydia vit depuis 1947 à Vorkuta. Elle a travaillé pendant 46 années dans les services administratifs des mines de charbon. Lydia Baumeister Fischer, de son nom complet, appartient à la minorité des Allemands de Russie, dont près de 2 millions ont été exilés de force par Staline en 1941 vers le Kazakhstan et la Sibérie dès le début de la guerre contre les nazis. Descendante donc des Allemands de Russie, invités dès le XVIIIe siècle par l'impératrice Catherine II, Lydia ne sait plus aujourd'hui si elle est russe ou bien allemande. Elle dit à la fois que sa patrie sera toujours la Russie, où elle a vécu l'essentiel de sa vie, mais elle sait aussi qu'il y a quelque part un ailleurs en Allemagne où se trouve une partie de ses racines, et au début de l'échange, elle tient d'ailleurs à s'exprimer en allemand.
Je suis Lydia Baumeister. J'habite à Vorkuta.
Vous vous sentez russe ou allemande aujourd'hui?
Je suis allemande. Mais oui, bien sûr, je suis russe aussi. J'ai toujours vécu ici. Bien sûr, je suis russe.
En 2008, Lydia est partie plusieurs semaines du côté de Berlin pour visiter un parent allemand originaire de Russie qui a immigré avec des dizaines de milliers d'autres après la réunification des deux Allemagnes. À son retour, formalité effectuée, Lydia Baumeister Fischer s'apprêtait à tourner définitivement le dos à toute une vie passée dans le Grand Nord russe quand sa fille et sa nièce sont intervenues.
Elles ne m'ont pas laissé partir. Elles ne m'ont pas laissé partir. Mes enfants ne m'ont pas laissé. Mais je regrette de les avoir écoutés. Je regrette toujours aujourd'hui, mais c'était il y a longtemps. Je ne veux plus partir maintenant. Ma nièce et ma fille sont venues, elle a dit « Maman, je n'ai pas pu dormir de la nuit. » Elle a commencé à pleurer. « Comment tu vas faire pour rester toute seule là-bas ? » Mais j'ai fait une bêtise. Je n'aurais pas dû les écouter.
À Vorkuta, les Russes d'origine allemande ne sont plus que quelques centaines encore fidèles à leur pays d'accueil. Ils se retrouvent le soir dans leur petit centre culturel, un local de 2 pièces exiguës. Là, les plus motivés perfectionnent leur allemand, pendant que d'autres se plongent dans la culture allemande via Internet. Ruslan Schaeffer, lui, regarde en boucle sur la télévision du club les vidéos de Rammstein, un groupe allemand de heavy metal, aux allusions critiques mais parfois aussi polémiques sur le Troisième Reich, tout en préparant, dit-il, le grand départ définitif vers son Eldorado, l'Allemagne. À 40 ans, Ruslan appartient à Vorkuta à la 3e génération des Chartiari, les mineurs de fond, comme son père et son grand-père avant lui, originaires d'Engels, dans la basse vallée de la Volga. Ruslan ne jure que par l'Allemagne et pourtant il ne l'a jamais visitée. Mais tout ça, dit-il, c'est la faute du pouvoir russe. D'ailleurs, comment se sentir encore patriote en Russie après tout ce que nous avons enduré, interroge-t-il, en essayant de contenir sa rancœur.
En moi, tout ça s'est arrêté. Je n'ai absolument plus le sens du patriotisme russe. Nous n'avons ni bonne éducation, ni bonne médecine, ni un bon taux de natalité. Voilà ce que je peux dire rapidement en quelques mots. Notre niveau d'enseignement, par exemple, est moins performant qu'en Europe. Je ne vois pas d'avenir pour ma famille en Russie, mais plutôt dans l'Union européenne.
Est-ce qu'il pense que l'État russe a maltraité sa famille?
Не только ко мне, к людям, простым людям, простым.
Pas seulement au moi, mais aux gens simples.
И очень такая, ну, нехорошая, не хочу на нее вообще говорить.
Je ne vais pas parler beaucoup sur le sujet. Vous connaissez vous-même.
Это понимаете, вот у меня есть шанс, потому что я немец. А понимаете, вот у других людей русских, я считаю, что у них нет шанса им бороться за все, понимаете? А у меня есть шанс. Да, вы правы.
C'est-à-dire, moi, je crois que j'ai la chance. J'ai la chance de changer ma vie. Et les autres, dans ce pays, n'ont pas cette chance.
Aux côtés de Ruslan, Ariana se tient discrètement en retrait quand il parle. À 19 ans, cette étudiante en journalisme, originaire aussi de Vorkuta, raconte-t-elle que ses origines familiales se perdent quelque part entre la Russie, l'Ukraine, la Pologne et donc aussi l'Allemagne. Mais elle ajoute aussi, elle, qu'elle se sent prête à continuer à vivre en Russie, prête aussi à s'engager politiquement pour le changement dans son pays. Ses convictions ont d'ailleurs commencé à naître après son passage volontaire pendant une année dans les cadets de Russie à Moscou. C'était, dit-elle, une façon de vivre pleinement son attachement à son pays, même si son expérience d'une éducation à forte consonance militaire a tourné court.
Скорее всего, в плюс, хотя и минусы были, могу сказать сразу, что когда у нас было посвящение,
c'était plutôt positif, même s'il y avait aussi des côтés négatifs. Aller chez les cadets, c'est peut-être une consécration, mais c'est aussi une vraie initiation. Quand j'étais là-bas vers 13 ans, je me suis endurcie. On nous donnait la permission de porter notre uniforme seulement à l'intérieur de la caserne. Mais moi, je le portais aussi dans la ville. Je marchais avec mon uniforme dans les rues. Je voulais faire la promotion de la formation des cadets. Mais d'un autre côté, j'ai aussi été déçue par mon expérience. J'ai participé à tous les exercices, au tir, à la marche. Mais finalement, tout ça, c'était de la mise en scène, du cinéma. L'essentiel, c'est de faire, mais pas de parler. Comme les analystes sur les canapés, comme on les appelle chez nous. Moi, j'ai été influencée par tous les clichés, les stéréotypes sur le patriotisme, comme par exemple, la Russie, c'est un grand pays, le plus grand pays du monde. Mais si on approfondit les choses, ce sont seulement des mots. L'essentiel, c'est de faire les choses, et pas seulement de parler et de critiquer.
La fraternité, la grandeur, le souvenir des héros de la patrie ne sont pas du cinéma, en revanche, mais le quotidien de Dmitri Kiptak, le responsable principal du musée du club patriotique de Vorkuta. Au milieu des uniformes, des armes et des albums photos, il veut rectifier l'image de sa ville, grise, froide et dans le déclin, à 150 km des côtes arctiques de la mer de Kara.
Beaucoup de ceux qui étaient prisonniers ou exilés ici ont continué ensuite de vivre dans la ville. Ils ont construit cette ville, effectivement. Mais dire que c'est seulement eux qui ont bâti Vorkuta, ce n'est pas tout à fait correct.
Dmitri, le patriote qui se veut sincère et désintéressé, accepte également d'évoquer les dangers du nationalisme en Russie, mais il assure tout de suite que le bouclier est tout trouvé, constitué, dit-il, par l'union des nationalités qui a justement fait ses preuves durant la Grande Guerre patriotique.
Si nous prenons la Grande Guerre patriotique, parmi ceux qui y ont pris part, il y avait toutes les nationalités présentes en Russie. Les Polonais, les Français et même les Allemands, ils ont tous lutté contre le fascisme. Nous ne mettons pas forcément l'accent sur qui était russe, qui ne l'était pas. Pour nous, ça ne doit pas exister. Je crois effectivement qu'il y a des gens qui considèrent les idéaux du patriotisme tout en ayant le regard tourné vers le nationalisme. Et ça, ce n'est certainement pas correct. Les erreurs comme ça, à la fin, nous savons très bien ici comment ça se termine. Par le fascisme. On voit tout ça négativement.
Mais précisément, comme beaucoup de nos interlocuteurs d'ailleurs, Dmitri ne parlera pas d'un nationalisme porté par certaines franges de Russes ethniques. Ceux pour qui les commémorations du 9 mai, jour de la victoire sur les nazis, ou celles du 4 novembre, jour de l'unité nationale, n'apportent rien de bon, ne serviraient au final, selon eux, qu'à développer le pacifisme dans la population au regard des sacrifices innombrables. De retour chez Robert Landa, l'historien moscovite nonagénaire aux racines juives, contemporain de Staline, qui examine les risques de dérive du patriotisme porté par Vladimir Poutine, surtout depuis quelques années l'accentuation des tensions avec les Occidentaux. Jusqu'où le chantre actuel de l'unité nationale gardera-t-il le contrôle passé lors de la succession ?
Poutine s'occupe bien de ce problème parce qu'il était très bien informé de cette période, oui. Mais les risques existent toujours. La comparaison entre le passé, oui, et le présent. Parce qu'il y a maintenant chez nous quelques tendances de capitalisme, non seulement nationalistes, mais antisoviétiques. Je pense que la majorité des Russes gardent quelque chose de l'URSS. C'est dans la mentalité des Russes et de leurs dirigeants. Notre peuple ne veut pas la guerre. Mais il faut toujours être prêt.
Le patriotisme russe à l'épreuve du quotidien, un reportage de Claude Bruyot avec Annie Brault à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Deux spécialistes de la Russie avec nous aujourd'hui pour compléter ce reportage. Anna Colin Lindbedev, maîtresse de conférence à l'Université Paris-Nanterre, et Tatiana Kastouyeva-Jean, directrice du Centre Russie et Nouveaux États indépendants de l'IFRI. Notre peuple ne veut pas la guerre, mais il faut toujours être prêt, disait l'historien qui concluait ce reportage. Alors, dès qu'il est arrivé au pouvoir, Vladimir Poutine a voulu renforcer l'armée. Et puis, on voit que dans les clubs patriotiques, les plus jeunes sont initiés aux armes. C'est pas exactement le patriotisme tel qu'on l'entend en France, Tatiana Kastouyeva-Jean.
Tout à fait, il y a quand même des différences. Le patriotisme, en fait, dans la compréhension de Vladimir Poutine, c'est quelque chose qui unit le pays. Il avait dit il y a quelques années, sauf erreur de ma part, je crois que c'était décembre 2019, que le patriotisme, c'est la seule idéologie aujourd'hui possible dans un État moderne qui doit unir le peuple. Et dont il y a plusieurs programmes aujourd'hui d'éducation civique pour l'école, pour lesquels il y a des ressources budgétaires assez significatives qui sont allouées et reconduites d'une année à l'autre. Et la définition qui est donnée, c'est l'amour pour la patrie, c'est la capacité d'être prêt à défendre les intérêts de la patrie, et ça va jusqu'au sacrifice de soi, c'est aussi le terme qu'on a entendu dans le reportage. Mais l'usage qui est fait de ce patriotisme, qui en soi est quelque chose de positif, il faut aussi avoir quand même en tête que la disparition de l'idéologie communiste a laissé un gros vide derrière. Les gens étaient assez perdus, notamment les jeunes, et certains se sont tournés vers la religion, qui a regagné de l'espace public en Russie d'une manière extrêmement forte et visible. Et d'autres se retrouvent dans toutes sortes d'initiatives patriotiques qu'on a entendues dans le reportage, les différents clubs, les classes cadets que les parents souhaitent pour leurs enfants, etc. Mais quand on commence à démêler les motivations, elles peuvent être tout à fait différentes qui guident tout cela. En fait, moi, je dirais le patriotisme aujourd'hui, ce qui pose problème, j'ai commencé par dire que c'est quelque chose de positif, ce qui pose problème aujourd'hui, l'idée qui est imposée aujourd'hui derrière, c'est que la patrie, le régime politique, les autorités, c'est en tout indivisible. Et en 2014, il y avait une phrase de Monsieur Volodine, qui aujourd'hui est le président de la Douma. À l'époque, elle était, il a dirigé l'administration présidentielle. Il avait dit Poutine, c'est la Russie. Tant qu'il y a Poutine, il y a la Russie. Et ce mélange, en fait, ce mix, c'est quelque chose de très dérangeant. On n'a plus le droit de questionner, en fait, l'action, la politique intérieure et la politique extérieure. Si on est patriote, il faut adhérer à tout, à un ensemble. Et le discours de la propagande fait que la Russie est érigée aujourd'hui en forteresse assiégée, contre laquelle l'Occident manigance toutes sortes de complots. Et il faut qu'elle puisse se défendre. Et certains aspects de ce patriotisme deviennent extrêmement militarisés.
Vous partagez cette analyse, Anna Colin-Lebedev. Comment est-ce que vous le comprenez, vous, ce patriotisme à la Poutine ?
Alors effectivement, le patriotisme à la Poutine a un certain nombre de caractéristiques très spécifiques. Je dirais que ce qui a été présenté par Tatiana et avec quoi je suis tout à fait d'accord, c'est qu'il y a une promotion de l'idée d'un patriotisme sacrificiel. L'idée que le citoyen doit être prêt à se sacrifier pour sa patrie ou du moins à faire des sacrifices, par exemple économiques, en étant victime de sanctions aujourd'hui que la Russie impose, qui sont imposées à la Russie et que la Russie impose aux États européens. Mais le patriotisme est aussi clivant aujourd'hui en Russie. Hein. Tout le monde n'est pas patriote de la même manière. Vous avez les couches populaires et plus largement, je dirais, un grand nombre de Russes qui vont pratiquer un patriotisme que j'appellerais mémoriel. Hein. On a beaucoup entendu ça dans le reportage. L'idée d'être patriote parce qu'on se souvient du sacrifice fait par son peuple, qu'on commémore des événements importants, qu'on trace le lien avec ses ancêtres. Je dirais que quelque part, ce patriotisme facile à instaurer a été le premier mis en place par le régime poutinien et promu par le régime poutinien. Mais l'opposition à Vladimir Poutine se déclare elle aussi patriote, sans forcément d'ailleurs se déclarer nationaliste. Les opposants vont dire, ou les critiques vont dire qu'ils sont patriotes, mais qu'ils pratiquent un patriotisme civique. On l'a entendu chez aussi plusieurs personnes dans le reportage au début à Volgograd. On peut être patriote, aimer son pays, mais en même temps être critique et vouloir être critique des acteurs politiques, décisions qui sont prises et vouloir une amélioration du gouvernement du pays, une amélioration des conditions de vie ou de la protection sociale des gens. Donc, toutes ces configurations du patriotisme coexistent, mais je dirais la dernière que j'ai mentionnée est celle que le pouvoir refuse de reconnaître comme légitime.
Oui, effectivement,
et qu'il refuse d'entendre.
Les opposants sont accusés d'être traîtres à la patrie, Tatiana Kastouyeva-Jean.
Il y a aujourd'hui, c'est encore en cours, hein, plusieurs lois répressives qui font tout pour limiter les critiques, les actions de protestation. Après les ONG et les médias, c'est aujourd'hui même les personnes physiques qui peuvent être accusées agents de l'étranger.
Oui, voilà. Précisons ça, effectivement, les lois anti-agents de l'étranger viennent tout juste hein, d'être renforcées.
Tout à fait, absolument. Et donc, il y a évidemment les personnes qui peuvent travailler avec les étrangers. Ça peut être même simplement les auteurs ou les experts qui coopèrent, écrivent dans les revues occidentales, etc., qui, si on le veut, peuvent tout à fait être accusés d'être les agents d'influence de l'étranger. Et donc, il y en a déjà beaucoup qui ont subi ce statut, notamment l'un des rares centres indépendants des sondages, Levada, accompagne chaque sondage qu'il publie, porte une mention que Levada est désormais considéré comme agent de l'étranger et qu'il conteste ce titre qui leur a été attribué et imposé. Donc c'est beaucoup plus compliqué pour la société civile, bien évidemment, et on n'est pas aujourd'hui très bien vu si on critique dans l'espace public Vladimir Poutine et sa politique étrangère. Même si, comme on voit très très bien dans le reportage, En réalité, 20 ans au pouvoir, il y a quand même une érosion de la popularité. Les gens voient bien le décalage entre le beau discours qui fait, c'est tout à fait les termes du reportage, et la réalité de la vie économique et sociale. Ils voient aussi les inégalités sociales. Je crois que c'était le vieux monsieur Robert Landau qui disait qu'à l'époque de la guerre, même les plus riches ne sont pas toujours patriotes. Et je pense que c'est tout à fait la phrase que les Russes reprennent aujourd'hui en voyant très bien que ceux qui leur parlent du patriotisme ont en réalité de l'immobilier à l'étranger, les enfants qui font leurs études à l'étranger, ont toutes sortes de schémas offshore liés à des zones à fiscalité attractive à l'étranger. Donc ils voient très bien que le patriotisme imposé par le haut, c'est pour certaines couches de la population et pas pour d'autres.
Mais alors justement, il y a clairement une instrumentalisation de l'histoire par le pouvoir hein, à travers cette défense du patriotisme. Est-ce qu'il y a aussi une réécriture de l'histoire ?
C'est le pilier aujourd'hui de la mémoire historique, hein, de ce patriotisme mémoriel, c'est la grande guerre patriotique, donc la Deuxième Guerre mondiale, si je reprends les termes occidentaux. Et ça, c'est quelque chose qui célébrait avec de plus en plus fortement tous les ans. Et c'est vraiment quelque chose qui est censé allier tout le peuple, où tout le monde se retrouve. Il y a le 9 mai, par exemple, non seulement la parade militaire, mais il y a quelques années, s'y est ajouté le régiment immortel. C'était à la base l'initiative civique, même régionale, hein, de la ville de Tomsk, où chaque personne portait le portrait de son ancêtre qui est mort pendant la guerre. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été récupéré par les autorités. Donc Vladimir Poutine a même marché à la tête de ce régiment immortel à plusieurs reprises. Mais la dimension que prend cette fête, parfois, il y a comme une sorte de vitrine. C'est aussi le mot qui a été employé dans le reportage. On peut acheter aujourd'hui les portraits de ses ancêtres pour pouvoir les porter pendant le régiment immortel. Donc accomplir en quelque sorte son devoir. Mais est-ce qu'on y adhère vraiment? Est-ce qu'on dit la réalité? Est-ce que c'est qu'une affaire familiale et personnelle? Est-ce qu'on porte son ancêtre? On a juste fait quelque chose qui est bien vu par la société et qu'il faut faire un jour précis dans l'année.
Anna Colin-Lebedev, depuis quand est-ce que Vladimir Poutine est obnubilé comme ça par le patriotisme? Il y a vraiment eu une montée en puissance de ce discours?
Alors, je pense que dès le début de son mandat, le projet de Vladimir Poutine de restaurer un État fort, de redonner une puissance à la Russie, s'accompagnait d'un discours patriotique et d'un discours de fierté nationale. Mais bien évidemment, on arrive à un point culminant au moment de l'annexion de la Crimée en 2014, où là, effectivement, l'adhésion à la fois au poutinisme et le sentiment patriotique sont à leur maximum. Il y a une sorte d'euphorie que tous les observateurs ont noté à ce moment-là du sentiment patriotique. Alors pourquoi? Parce que l'annexion de la Crimée, en fait, vient panser quelques plaies qui lui sont antérieures, hein, quelques plaies historiques. Elle vient compenser les années 90 où la Russie a été vue comme non attractive, ou a été vue comme insignifiante, peut-être par la communauté internationale. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté dans le discours russe. Elle vient compenser les années où l'armée a été présentée comme faible, incapable d'intervenir à l'étranger. Elle vient compenser la perte de territoire due à la chute de l'Union soviétique, etc., etc. Donc en fait, cette blessure narcissique ravive le sentiment patriotique, un sentiment patriotique assez militariste, hein, un sentiment patriotique lié à l'idée de grandeur de son pays, y compris de grandeur en taille. Et effectivement, c'est un moment culminant du patriotisme poutiniste, qui depuis en fait décline. Ces dernières années, avec la crise économique, avec aussi le poids que représente la Crimée en fait dans l'économie russe et pour la société russe.
Alors cette idée de grandeur, elle était déjà portée hein, par l'Union soviétique. Est-ce que c'est aussi ce patriotisme russe un héritage du patriotisme soviétique?
Le patriotisme russe de Poutine est calqué sur le patriotisme soviétique. Je dirais même que la référence à la figure du soldat combattant de la Grande Guerre patriotique est l'exact jumeau du héros de l'Union soviétique tel qu'il était promu du temps de l'URSS. Ce patriotisme avait disparu à la chute de l'URSS. À la chute de l'URSS, on était revenu dans les années 1990 à une vision où, disons, les gens aimaient leur pays, aimaient leur grande patrie et leur petite patrie, y étaient attachés, mais étaient capables et souhaitaient porter un regard critique sur les actions du pouvoir politique, sur leur propre histoire, etc. Vladimir Poutine, en fait, a opéré un retour en arrière et une réhabilitation de formes patriotiques qui sont familières à des gens comme, par exemple, l'historien Vladimir Landau qu'on a entendu dans le reportage. Une grandeur, des qualités personnelles attachées aux Russes qui sont attribuées aux Russes et l'idée d'une grande capacité de sacrifice pour autrui.
Et alors, Tatiana Kastouyeva-Jean, est-ce que tout le monde continue aujourd'hui de se dire patriote, toutes les générations ?
C'est un terme qui est souvent utilisé. Oui, très facilement, on peut dire « je suis patriote ». Rares sont les gens qui ne le disent pas. Je me souviens, il y a quelques années, Sergueï Kovalev, qui est le défenseur des droits de l'homme de longue date, disait « je suis anti-patriote » parce qu'il n'était pas avec le contenu, en fait, de ce qui était mis dans ce terme. Avec, je pense, tous les aspects militaires, l'accent qui est mis par ce patriotisme imposé par le haut, le retour aux pratiques soviétiques bien connues par encore une grande partie de la population russe, comme disait Anna Kolin-Lebedev. Mais d'une manière générale, tout à fait, les Russes se disent patriotes. Mais quand on regarde, en fait, quand on décortique de quoi ils sont fiers exactement, c'est souvent quand même, le regard est tourné vers le passé. Les exploits du passé, la victoire dans la Grande Guerre patriotique, les conquêtes spatiales, c'est ce qui vient en premier place dès qu'on demande aux gens de quoi êtes-vous fiers exactement. Peu de gens mentionnent les systèmes économiques, politiques, les succès d'aujourd'hui, en fait, et encore moins les grands projets qui seraient partagés par toute la nation, tournés vers l'avenir.
Donc, en fait, c'est un patriotisme de façade.
C'est surtout, comme je disais, un patriotisme tourné vers le passé. C'est pas complètement la façade, parce qu'il y a, il y a le vrai fond. Oui. Les gens, ils sont bien fiers des prouesses, des réalisations et des succès qui ont été bien réels. Mais et là, on revient tout à fait au terme du reportage qui ont été employés par plusieurs personnes, hein, qu'il y a les beaux propos, il y a le passé, il y a les beaux discours. Mais qu'est-ce qu'on construit aujourd'hui ? Où on va, comment on vit, quelles sont les conditions pour la population aujourd'hui. C'est ça les questions que le Russe souhaite poser. Donc sans abandonner le patriotisme et cette fierté par rapport au succès réalisé, mais être un peu plus tourné vers le présent et vers l'avenir. Je pense que c'est ça la quête profonde des Russes aujourd'hui.
Anna Kolin-Lebedev, on ne voit pas aujourd'hui vraiment de projet commun pour la société russe ?
En effet, c'est l'une des choses que l'on souligne souvent en analysant la politique russe, c'est que il n'y a pas d'autre projet que l'union face à un extérieur qui serait forcément hostile et qui souhaiterait attaquer la Russie. On va en avant, hein, le pouvoir invite à aller en avant, mais il n'y a ni idéologie cohérente, ni projet d'avenir. Hein. En revanche, ce projet patriotique et cet accent mis sur le patriotisme, et notamment les clubs d'éducation patriotique, les musées, les initiatives, etc., servent de ressources aujourd'hui pour un grand nombre de personnes, en fait, pour se positionner sur la scène politique ou sur la scène économique de leur ville, de leur région, ou même de la Russie tout entière. Le patriotisme est une ressource. Dès qu'on se déclare patriote, on peut déclencher des financements pour ses projets, on peut se faire bien voir des autorités locales. C'est une sorte de sésame à présenter aujourd'hui pour avancer. Et pour les jeunes, comme ceux qu'on a entendus dans le reportage, eh bien, la participation à des initiatives patriotiques, notamment en province, c'est aussi un certain moyen d'ascension sociale. D'avoir un lieu de socialisation, de rencontrer des gens, de se faire bien voir, éventuellement de faire carrière localement dans des institutions locales. Donc le patriotisme n'a pas énormément de contenu propre tourné vers l'avenir, mais il nourrit aussi les Russes aujourd'hui.
Donc c'est un peu avoir sa place, hein, Tatiana Kastoyeva-Jean, c'est s'assurer une place au sein de la société.
Oui, si, tout à fait. Je pense qu'Anna Colin-Lebedev a tout à fait raison de souligner, outre le patriotisme un peu politique imposé par le haut, il y a aussi ce patriotisme par le bas. Et là, les motivations peuvent être tout à fait différentes. Par exemple, dans les écoles, la renaissance des musées de l'histoire de la Grande Guerre patriotique et les cours du patriotisme, ça a été beaucoup porté par les professeurs eux-mêmes qui se sont retrouvés pendant les années de Perestroïka un peu démunis en se disant « mais on n'a plus de contenu en fait, qu'est-ce qu'on peut transmettre à nos jeunes, etc. » Et ils ont transmis les pratiques qu'ils connaissaient déjà. Donc c'était aussi en partie un mouvement assez spontané venant d'en bas. Aujourd'hui, j'ai commencé à en parler un petit peu au début, il y a des motivations différentes qui guident les parents, par exemple, quand ils inscrivent leurs enfants dans les écoles et dans les classes de cadets. C'est la promotion sociale, tout à fait l'ascenseur social, entièrement d'accord avec Anna Colin-Lebedev. C'est aussi des points supplémentaires pour pouvoir entrer ensuite, avoir des places budgétaires dans l'enseignement supérieur. Et c'est aussi envie d'occuper les enfants parce qu'ils y passent beaucoup plus de temps, en fait, dans ces classes de cadets. Il y a moins de temps libre, donc moins de temps de faire les bêtises, tout simplement, hein, dans la compréhension des parents. Donc voilà, les motivations sont tout à fait différentes. Ils ne sont pas seulement politiques, ils peuvent être aussi tout à fait personnels, sociaux et familiales.
Mais alors, Anna Colin-Lebedev, on parle donc de patriotisme, mais parfois ça ressemble quand même à du nationalisme. Alors un nationalisme modéré, pourrait-on dire ?
En effet, un nationalisme modéré porté avec une certaine prudence par le pouvoir russe lui-même. Le pouvoir russe n'est pas très amical vis-à-vis des mouvements nationalistes. Les mouvements nationalistes sont plutôt réprimés en Russie. L'État les voit comme une menace. La Russie est un État multiethnique qui ne souhaiterait pas voir, disons, une émergence de mouvements nationalistes de la part de ses minorités. Donc, toute idée nationaliste est plutôt freinée. Mais en revanche, un certain nombre d'idées nationalistes, telles que l'idée de la supériorité morale d'un peuple ou de l'idée de différences ethniques fondamentales, sont présentes, y compris chez les représentants du pouvoir russe. Il y a des acteurs ouvertement nationalistes aujourd'hui dans la classe politique russe qui sont à la fois marginaux et extrêmement populaires. C'est un discours qui porte. Le discours que nous, vu d'Occident, vu de France, on le considérait comme relativement extrême en termes de référence aux nationalistes, est totalement mainstream en Russie. Le nationalisme est bien imprégné dans les projets du pouvoir russe.
Et il y a aussi une xénophobie qui est réelle dans la société russe, Tatiana Kastoyeva-Jean.
Malheureusement, c'est assez présent et avant tout, c'est les personnes qui sont concernées. D'ailleurs, c'est en train de monter depuis 2017. Il y avait une petite rechute des sentiments xénophobes avec l'annexion de la Crimée, curieusement. Donc, les énergies étaient dirigées ailleurs. Et depuis 2017, il y a un certain retour. Et les Russes souhaiteraient limiter l'immigration dans leur pays et limiter les droits de certaines populations, de certaines ethnies. C'est dirigé, par exemple, contre les tziganes, contre les gens du Caucase, contre les migrants de l'Asie centrale. Le pic de ces sentiments, c'était en 2013, c'était même un sujet, l'un des grands sujets de la campagne à l'élection à la mairie de Moscou à l'époque. Ensuite, comme je disais, avec l'annexion de la Crimée, ça s'est quelque peu estompé et ça revient. Et je pense que c'est lié aussi au retour des conditions économiques plus précaires, la pauvreté, etc. Il y a toujours cette idée que le migrant, ça prend l'emploi, la place de travail et le revenu qui pourrait être celui des Russes ethniques. Mais Anna Colin-Lebedev a parfaitement raison de souligner que le pouvoir, les autorités russes n'aiment pas du tout le nationalisme ethnique extrême et font tout pour le limiter. Et plusieurs nationalistes sont retrouvés en prison, les mouvements interdits et la marche russe qui existe depuis 15 ans a connu une érosion progressive, y compris sous les coups venant des autorités.
Merci Tatiana Kastouyeva-Jean, merci beaucoup Anna Colin-Lebedev. Le patriotisme russe à l'épreuve du quotidien. Le grand reportage de cette semaine était signé Claude Bruyau. Réalisation Annie Bro avec Nasser Moussaoui à la technique. Merci bien sûr à l'équipe de la documentation de Radio France. Et puis vous pouvez podcaster cette émission de la rédaction sur l'appli Radio France ou la retrouver sur franceculture.fr.